Merci pour votre invitation. Bonjour. Suite aux propos introductifs de Patrick Baudry, effectivement, je prends garde à ne pas me nommer sociologue. Et j'arrive très vite dans l'embarras parce que je n'ai pas même une formation en sociologie. Ce qui a provoqué un éveil nocturne quelques jours avant la soutenance de mon HDR, où tout à coup, en pleine nuit, je me dis « Mais si, on me questionne sur moi. Durkheim, sur Weber, qu'est-ce que je dis ?» Voilà. Je n'ai pas été sollicité de cette manière-là, donc je m'en suis mieux sorti. Chaque fois que je dois prendre la parole à propos des questions du commun, je suis quand même pris un petit peu d'un doute et d'une hésitation en regard effectivement de ce phénomène expansif du questionnement, du fait qu'il émerge vraiment un petit peu de partout et qu'on devient un petit peu hésitant dans la manière de s'en saisir et de le caractériser. Bon, c'est peut-être la première indication que j'apporterai, c'est-à-dire de garder en tête le caractère récent de sa présence aussi insistante dans notre paysage social et politique. Bon, vous m'excuserez pour l'exemple sur lequel je viens, parce qu'il me concerne très directement. J'ai un repère très précis qui a été le moment où j'ai choisi d'ouvrir un site personnel où je cherchais un nom de domaine. Donc j'ai cherché un nom de domaine avec atelier, coopération, etc. Et tout était pris. Et je suis arrivé sur le terme de commun. On est en 2008, voilà. Et commun ne fait pas écho particulièrement. Et je le retiens d'une manière quelconque. Parce qu'en sociologie, il est plutôt amusant. Il renvoie à l'ordinaire, il renvoie au collectif. Mais il n'y a pas d'enjeu. Et aujourd'hui, je suis plutôt embarrassé, effectivement, de ce choix, y compris parce que, symboliquement, il renvoie à une forme de privatisation d'une nomination qui est d'intérêt commun. Et je peux vous assurer qu'à cette période-là, le terme de commun ne provoquait pas plus d'écho qu'un clin d'œil sociologique pour un autre domaine. Donc ça veut dire que ça va bouger au début des années 2000. Voilà. Alors on a des repères, pour moi, d'un séminaire qui a associé Dardo Laval et Negri, 2012-2014. Voilà, Julie de Revel aussi, et où commence à sortir un certain nombre de publications et d'ouvrages. Donc on est quand même dans une temporalité assez courte, et c'est quand même assez impressionnant de voir la rapidité de diffusion et la pluralité des domaines qui ont été intéressés. Alors, moi je pense que c'est intéressant. Ce qui veut dire que cette hypothèse du commun arrive à un moment pertinent sur un plan générationnel. Voilà. On a là une hypothèse qui est saisie et qui est très vite mise au travail, mais qui est saisie tellement vite qu'on a un peu du mal à la documenter au moment où elle est en train effectivement de prendre cette place aussi insistante. Alors, pour essayer un peu de me dépatouiller de la situation, je vais procéder en deux temps. Je vais venir sur des terrains de recherche pour essayer de vous montrer en situation de recherche qu'est-ce que je rencontre et qu'est-ce que, entre guillemets, j'attrape lorsqu'effectivement je suis en questionnement autour de ces questions, de ces enjeux du commun. Donc ce sera le premier temps de mon exposé qui risque d'ouvrir plus qui ne caractérisera. Voilà. Et puis en deuxième temps, j'essaierai quand même de faire un petit peu cet effort de caractérisation, y compris parce que j'y suis confronté lorsqu'on me sollicite en termes d'appréciation. Beaucoup de personnes viennent me demander est-ce que ce qu'on fait c'est du commun. Voilà, je regarde bien de répondre, mais on peut quand même avoir quelques repères qui nous aident à faire peut-être la part des choses dans la multiplicité de ces expériences. Pas du tout pour disqualifier, pour déconsidérer, pour mettre comme ça des repères, etc., mais pour nous aider à réfléchir ensemble quand on est un petit peu sur ce terrain. Vous remarquerez que je reste attaché à l'idée que le commun est une émergence. C'est un rapport à l'histoire, c'est une conception de l'historicité. Je pense qu'il y a des choses qui font différence et qui font événement. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là lorsqu'il y a émergence d'un commun, donc j'y reviendrai. Mais lorsqu'il y a émergence, il y a aussitôt reformulation, reparcours des antériorités. Toute émergence construit dans le même mouvement ses antériorités. Voilà. Donc aujourd'hui, on a l'émergence de commun et en même temps, on renoue avec des réflexions qui peuvent être très, très anciennes du point de vue des communaux, en monde rural, ou sur une temporalité plus récente qui est effectivement l'expérience du numérique, qui a sans doute beaucoup anticipé des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc, dans le moment même où il y a effectivement cette émergence, il y a effectivement reparcours d'antériorité. Ces antériorités nous apportent, me semble-t-il, deux choses en termes de capacité politique et puis de ressources intellectuelles. À la fois un effet de légitimité, ça me semble intéressant de pouvoir dire dans d'autres époques ce fut possible. Donc réengager cette manière de faire peut valoir la peine. Et puis deuxième aspect, ça nous capacite aussi en termes de, entre guillemets, de méthode politique. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple. Lorsqu'on revient sur cette antériorité majeure qui est celle du numérique, du point de vue de l'open source, du libre, de l'internet ouvert, etc., il y a justement cette méthode qui est cette méthode de l'open source, de laisser ouvert l'accès au logiciel. Hein. Cette open source, on peut la généraliser en tant que méthode politique et la réengager dans d'autres domaines. Voilà. Des designers l'ont fait concernant la fabrication des objets, réalisant en quelque sorte des biographies d'objets et en essayant de restituer au mieux la façon dont l'objet avait été en fabrication, afin que d'autres puissent se saisir de cet objet en ayant effectivement les clés de sa production et de sa fabrication. Donc laisser l'objet en accès ouvert. Or, on sait que les logiques de marchandisation aujourd'hui ferment, verrouillent les objets pour empêcher la réparation. Ça peut venir aussi sur le terrain de nos fonctionnements institutionnels. Moi, je pense qu'on gagnerait démocratiquement, et sans doute on gagnerait en intérêt commun, si les décisions, les fonctionnements institutionnels étaient eux aussi proposés en open source. Voilà. C'est-à-dire qu'on puisse à la fois en faire l'archéologie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça alimente, à la fois en faire la généalogie, comment une question se déplace et se réinvente dans la durée, et au final en faire la biographie, comment une question fait existence, fait histoire dans une institution. Et sur des choses très précises, hier j'ai eu la bonne nouvelle d'obtenir 25 mètres carrés de plus pour mon laboratoire, ce qui est beaucoup, et voilà. Et donc c'est une question que je peux effectivement, en open source, comprendre à l'échelle de 3 ans, etc., et ce que ça vient signifier dans un établissement. Voilà. Donc revenir sur des antériorités, c'est effectivement à un moment donné pouvoir s'approprier, bénéficier comme ça d'éléments de méthode et de voir si on peut les réengager dans des domaines différents, etc. etc. Donc émergence et réengagement d'antériorités. Alors j'en viens sur les terrains de recherche. Je vais venir sur trois terrains de recherche différents. Un terrain de recherche entre guillemets plus ancien, des années 2000, début des années 2010. Donc, des recherches que je conduis sans du tout faire venir la catégorie de commun et sans faire venir même la nomination de commun. C'est ce que j'ai appelé toute cette période des expérimentations politiques, en particulier dans les friches industrielles. Dans un deuxième temps, je viendrai sur ce qu'un des jeunes chercheurs à qui je bosse nomme des tentatives de communisme immédiat, que je peux formuler de manière sympa, parce que je les aime beaucoup, mais des fois, ils partent tous à la campagne. Voilà. Ce qui est une vraie question, c'est-à-dire moi j'appartiens encore à une génération où quitter nos petites villes et venir dans des grandes villes, en particulier universitaires, c'était quelque chose de l'ordre d'une émancipation, du point de vue de l'expérience des sexualités, du point de vue des formes d'engagement politique. Et aujourd'hui, ils opèrent l'inverse. D'ailleurs, les jeunes chercheurs, particulièrement dans une université comme Paris 8, après 3 ans, 4 ans de tentatives d'ouverture de squats, de mobilisation, de militantisme dans ces grandes villes, voilà, ils décident effectivement de partir en zone rurale. Et là, il y a un autre enjeu qui est sur la disponibilité, sur lequel je reviendrai. Puis je prendrai plus de temps sur la question des quartiers populaires. Je pense que les enjeux du commun peuvent être vraiment une hypothèse un petit peu décisive dans les quartiers populaires, en sachant que le commun en tant que catégorie n'émerge pas du tout de ce paysage. Et aujourd'hui, me semble-t-il, et ma formulation sera vraiment raide et sévère, je pense qu'aujourd'hui, les services publics et les services sociaux sont un élément du problème et non plus des éléments de réponse. C'est-à-dire que c'est sans doute dans les quartiers populaires qu'on prend la mesure à quel point il y a un cycle de politique publique, voilà, qui est épuisé. En particulier ce cycle qui s'ouvre dans les années 80 avec les politiques d'insertion, politiques d'innovation, politiques de la ville, etc. Ça ne fonctionne plus. Et ça devient un élément du problème. Et là, de réengager une nouvelle hypothèse me semble assez difficile. Donc je passerai plus de temps et plus je fais attention à l'horaire. Donc sur cette expérience antérieure de toutes ces expérimentations dans les friches, on est dans ces années-là 2000 où Occupé représentait effectivement un rapport critique à la ville. Et non pas aujourd'hui où on a des collectivités, je crois plutôt avec de l'intelligence, des appels d'offres pour que des collectifs viennent occuper. Hein, voilà. Donc on est dans ce contexte où il y a un engagement critique et où, me semble-t-il, un des grands enseignements qu'on peut en tirer, c'est un ensemble de collectifs, souvent artistiques, considèrent qu'il faut commencer par faire pour pouvoir construire un rapport critique à la ville, au développement de l'urbain. Et là, c'est probablement, en tout cas en tant que chercheur, j'ai pris la mesure à quel point c'était intéressant de se faire vivre dans l'engagement critique le moment négatif de la critique, destituer, s'opposer, défaire, etc., par rapport à ce modèle du développement urbain, et en même temps, le moment positif de la critique à travers une expérimentation, à travers une réalisation, par le fait qu'on met en travail un certain nombre de choses. Alors, pour moi, il y a sans doute d'autres domaines hein, où les choses peuvent se lire. En tout cas, dans mes recherches, effectivement, avec ces collectifs d'artistes, dans les friches, que j'ai pris la mesure, effectivement, de l'importance de cet engagement critique par le faire, et qui rejoint les travaux de l'Allemand sur son bouquin « L'âge du fer », donc je suis assez d'accord avec lui, et qui est intéressant du point de vue de cette reformulation de l'engagement critique, hein, qui passe à la fois par le rapport oppositionnel et à la fois par le rapport contributif. Et on prend un petit bout de la ville, un petit fragment de la ville, une occupation, une friche, et on tente effectivement ce double mouvement. Et je pense qu'il reste au cœur, effectivement, de la constitution du commun. Le commun, c'est à la fois un geste critique adressé, effectivement, à des fonctionnements institutionnels, en particulier de cette vieille, belle, grande institution publique, mais qui est, je crois, effectivement, un peu en fin de cycle historique, dans son rapport au marché. Donc cette dimension critique destituante, et puis cette dimension créative, innovante, hein, de production hein, de quelque chose, etc. Donc voilà, je fais un petit peu vite hein, comme ça, mais j'essaie de dégager les premiers éléments d'enseignement. Sur ce deuxième terrain, sur ces tentatives de communisme immédiat, donc là, je n'ai pas d'intention de recherche systématique, mais c'est simplement des opportunités par amitié avec des collectifs, par les travaux des jeunes chercheurs avec qui je travaille. Là, ça a été vraiment la prise de conscience d'un enjeu majeur qui est celui de la disponibilité. Voilà. C'est-à-dire que l'environnement urbain voilà, ne réserve plus de disponibilité spatiale, de disponibilité d'imaginaire, de disponibilité de possible, etc. Et là, il y a quelque chose de troublant. Et donc, pour innover... Pour engager d'autres hypothèses, il y a un acte qui me paraît très significatif, c'est effectivement de se déporter, voilà, de faire défection par rapport à la ville, voilà, et de revenir, et de venir vers d'autres territoires. Voilà. Et donc, les territoires, ben, vous les connaissez, alors, je ne sais pas, en proximité de Bordeaux, pour ma part, c'est effectivement l'Ardèche, la Corrèze, etc., c'est la Lozère, voilà. Pour des expériences qui sont probantes, c'est-à-dire, au début, on va dire, il y a 10, une grosse dizaine d'années, on a regardé ces premières expériences avec un clin d'œil, avec un sourire, en disant, voilà, c'est une illusion, ça ne tient pas, c'est très idéologique. Et il se trouve que des collectifs ou des communautés, hein, les variations de termes, tiennent dans la durée. Voilà, donc un des collectifs avec qui j'échange du côté de Tulle, tout simplement parce que j'ai un chercheur en thèse hein, qui fait partie de ce collectif, voilà, ben, il communalise les revenus depuis une dizaine d'années, et ils communalisent ce que j'appelle les utilités ou les nécessités. Voilà. Par exemple, l'un d'entre eux est devenu réparateur automobile et à l'entretien des 7-8 véhicules du collectif. Voilà. Donc il y a effectivement une question de disponibilité, c'est-à-dire comment arriver à entrouvrir, comment arriver à se décaler, à se déporter pour qu'à un moment donné, de nouvelles hypothèses puissent s'investir, puissent se vivre. Quoi. Voilà. Et je pense que le commun nous pose aussi cette question, y compris dans nos institutions, à l'université. C'est-à-dire comment réussir à réouvrir hein, dans ce contexte-là, parce que je crois profondément qu'il faut repenser, réinstituer l'école, l'université aussi dans les termes du commun, parce que je crois que là aussi, on est dans un empêchement majeur de fonctionnement avec simplement les outils classiques de la politique publique. Donc cette question de la disponibilité. Alors j'en viens sur les quartiers populaires. Alors, deux exemples. Premier exemple, donc un quartier. Juste, je m'excuse, est-ce qu'il y a un enregistrement du propos ou non? Oui. Est-ce qu'il va être diffusé publiquement? Oui, donc tout simplement, je rends anonyme mon propos, c'est simplement. Ça ne me gêne pas, mais voilà, comme je viens sur le terrain de recherche. Donc, un premier terrain de recherche. dans une ville du nord de Paris, un quartier de centre-ville populaire, très fortement paupérisé. Voilà, donc une cité qui a... Donc je vis dans cette cité, je fais mon travail de recherche dans cette cité, j'y vais en semaine, en fin de semaine je vis dans une autre ville. Cette cité a la particularité d'être un lieu du trafic majeur du nord de Paris, et en même temps, et moi ce en même temps ça m'intéresse, un collectif de femmes et un collectif d'intervenants sociaux qui prennent une hypothèse forte me semble-t-il en termes de commun, qui est décidé de créer un centre social dans le quartier et de le construire juridiquement, non pas en termes d'association ou de service municipal, comme ils le sont tous, mais pour la première fois en termes de coopérative. Voilà. Et là, on a un décalage. Un décalage entre le mieux qu'on peut faire dans une construction de politique publique en y mettant avec vraiment de la bonne volonté, de la sincérité, de la participation, etc., etc., et où on se rend compte qu'on n'y arrive plus. Et puis ce décalage de dire, mais il ne suffit pas de participer dans le cadre d'un dispositif politique public, il faut réussir à coopérer, voilà, dans le cadre, effectivement, de ce que je nomme, moi, la construction d'un commun. Et j'ai envie de dire, peu m'importe comment ce collectif de femmes va nommer son expérience, l'enjeu n'est pas là, mais pour moi, on a bien de l'ordre de la construction d'un commun. Et à partir du moment où s'est posée la forme juridique de la coopérative, c'est pas tant la construction juridique, même si elle pose des sacrés soucis, c'est effectivement parce que la question de la coopération est devenue une variable tout à fait majeure. Et à partir de là, ça devient compliqué. Et la situation du centre est aujourd'hui très difficile. Et ce que j'en découvre, c'est que quand on, par un effet de décalage et de déport, on ouvre l'hypothèse et ce possible, j'ai envie de dire, c'est la vie qui déboule. C'est du désir, c'est des relations qui se tendent, c'est plein de choses qu'on a envie de faire, etc., etc. Et moi, j'ai pris la mesure, donc on est au travail en tant que chercheur dans l'expérience, et c'est après coup qu'on prend la mesure des choses. C'est que on n'a pas suffisamment équipé, en termes démocratiques, en termes de recherche, le processus qui était en cours. Voilà. C'est-à-dire que c'est arrivé très vite, ça libère beaucoup, beaucoup de choses. Et à cet endroit-là, c'est pas non pas de contrôler, c'est pas même pas de contenir, c'est d'inventer les dispositifs démocratiques qui vont permettre d'avancer de manière constructive. Alors, des exemples, si c'était à refaire, dans une temporalité très courte, de quelques mois, moi je proposerais par exemple des dispositifs d'analyse de pratique ou d'analyse d'expérience. Quelque chose aussi que j'aurais à cœur de créer, mais je ne sais pas si ce sera possible, il y a certaines des femmes qui hésitent dans une prise de parole publique, allez, dans un rapport intimidé à la langue française. Et il se trouve que dans mon laboratoire, j'aurais pu être un peu plus dégourdi, j'ai Nicole Blandeau qui travaille sur la biographisation langagière, nos biographies langagières. Et chaque fois qu'elle travaille de cette manière, c'est extrêmement intéressant de voir comment justement ça libère cette pluralité de nos experts langagières. Donc là, c'est typiquement un équipement de recherche, un équipement démocratique qui aurait pu contribuer, etc., etc. Voilà. Donc cette première expérience dans ce quartier à Saint-Denis, à la cité Péri, oh pardon, voilà, je voulais rester un petit peu réservé, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Donc c'est effectivement cette importance de trouver les équipements de recherche démocratique qui sont appropriés et qui vont permettre de donner ferme assez rapidement. Vous allez sentir, pour moi, le commun, c'est de la réinstitution. C'est-à-dire, effectivement, c'est très vite dans un processus instituant et de créer des formes, des dispositifs, etc. Deuxième exemple, là par contre je serai un peu plus prudent, une petite métropole du Nord, voilà, deux quartiers populaires, le même collectif qui nous sollicite, collectif d'habitants, voilà, collectif qui prend acte de la maltraitance de la collectivité du bailleur. Voilà. Et ce collectif, les paroles ont été dites, elles ont été écrites, c'est on ne demande plus, on fait. Et ce collectif se met à rééquiper les espaces en cofabrication, en coproduction, et des bancs, et des jeux pour enfants qui sont bien évidemment pas des jeux par enfants, mais que les enfants utilisent comme des jeux, etc., etc. Des barbecues, des jardins, etc., etc. Arrive une opération de rénovation urbaine, et à partir de là, le collectif rentre dans un rapport contributif critique avec l'opération de rénovation urbaine. Donc ils ne sont pas dans l'intérieur du processus, mais la collectivité concède un bâti, qui est l'ancien bâtiment qui accueille les logements de fonction des instituteurs, voilà. Donc deux étages, un bloc, etc., et avec la possibilité d'ouvrir une maison. Et là, on commence à documenter, et on documente du début, c'est-à-dire la première visite, et où là, en tant que chercheur, la seule chose que j'observe, c'est les yeux. C'est des yeux qui pétillent d'envie et des idées qui surgissent de partout, du point de vue d'atelier, du point de vue de forme de solidarité, du point de vue de la possibilité d'héberger, etc., etc. Et on va essayer de voir comment cette maison peut prendre forme, à la fois dans ses dynamiques internes et à la fois dans son rapport à ce rouleau compresseur de la rénovation urbaine. Le même collectif dans un autre quartier, le collectif agit sur deux quartiers, et là on est dans un cas de figure complètement différent, le maire souhaite que le collectif intègre le processus de la rénovation urbaine. Et là, nous on franchit un seuil en tant que chercheur. Précédemment on pouvait considérer qu'on était une équipe de recherche associée au collectif, aujourd'hui je considère qu'on est membre du collectif par les choix qu'on vient de faire. Et donc sur ce deuxième quartier est proposé à l'ANRU, rénovation urbaine, deux hypothèses. Première hypothèse, le collectif construit 20 logements en intégrant de la cofabrication avec les habitants. Donc le collectif, en alliance avec les architectes, relève le défi de fabriquer, considérant que si on ne fabrique pas du logement, on n'arrive pas à peser sur le débat dans le contexte de la rénovation urbaine, voilà, et de le faire en intégrant de la cofabrication, et d'ouvrir la question du logement social en tant que bien commun, et non pas en tant que variable qu'on détruit, qu'on reconstruit et qui alimente essentiellement les bénéfices des majors du bâtiment. Puis deuxième hypothèse, trois permanences, tout le temps dans la rénovation. Une permanence architecturale, une permanence recherche et une permanence éducative. L'idée de permanence, c'est de faire en sorte, tout au long de la rénovation, d'essayer de voir qu'est-ce qui va associer, voilà, qu'est-ce qui va faire un peu partage pour des personnes qui vont être sacrément secouées, puisqu'il va y avoir destruction et reconstruction du quartier hein, sur 3 ans, sur 5 ans, etc. Alors, où on en est aujourd'hui, c'est que les hypothèses politiquement ont été validées. Et que les hypothèses sont inscrites dans l'ANRU, voilà, elles posent problème, voilà, et elles ne sont pas financées. Voilà. Donc elles peuvent ne pas être financées, donc ça ne sera pas. Toujours est-il que l'hypothèse est remontée du point de vue de l'ANRU. Donc, dans mon langage d'aujourd'hui avec vous, je dirais qu'on a une hypothèse de commun, qu'on a essayé comme ça d'infiltrer voilà, à l'intérieur d'une politique publique majeure, massive, hein, qui est une politique de rénovation urbaine. On n'est pas naïf, on pense à aucun moment faire basculer la situation, mais on pense qu'à l'intérieur, on peut arriver effectivement à glisser des éléments souvent significatifs qui font peut-être bouger quelques lignes. Donc voilà, en venant sur le terrain un petit peu comment les choses se passent pour nous. Alors si je viens un peu plus en caractérisation, et pour reprendre comme ça des bribes que j'ai déjà eues, que je viens d'avancer. Peut-être, pour la caractérisation du commun, la première idée pour moi, il y a une triple épreuve démocratique. C'est avant tout une épreuve démocratique, c'est une hypothèse démocratique. Elle est éprouvée, elle est éprouvante. Elle est éprouvée parce qu'elle est vécue, parce qu'elle fait expérience, et elle est éprouvante parce que ça secoue, parce que c'est extrêmement, parfois, difficile. L'exemple du sens social dont je vous parlais. Trois épreuves démocratiques liées à la façon dont le commun peut prendre forme. Alors, premier mouvement du commun, c'est un assemblement de personnes. Donc, première épreuve démocratique, comment on s'assemble. Il y a plusieurs façons de s'assembler, toutes n'ont pas la même valeur, toutes ne sont pas équivalentes. Première épreuve démocratique, donc un assemblement de personnes qui portent intérêt et considération à une ressource. Deuxième épreuve démocratique, comment porter considération et intérêt à une ressource. Donc là, tout un apport de l'écologie politique. Deuxième épreuve démocratique. Et puis troisième épreuve démocratique, donc un assemblement de personnes qui portent intérêt et considération à une ressource et qui souhaitent la développer, voilà, et l'administrer, voilà, on va dire, pour le dire vite, de manière égalitaire, équitable, durable, etc., etc. Et là, à nouveau, une troisième épreuve démocratique. Si on revient sur chacune de ces épreuves démocratiques, la dimension de l'assemblement renvoie à ce que Vercotteren a nommé des micropolitiques de groupe. Quels sont les choix politiques qui vont faire que les groupes vont prendre forme dans des expressions intéressantes, correctes, etc. C'est-à-dire des micropolitiques qui vont nous permettre d'agir sur l'ensemble des rapports sociaux qui s'activent et qui s'actualisent immédiatement lorsqu'on s'assemble. D'ailleurs, lorsqu'on s'assemble, immédiatement, les grands rapports sociaux s'actualisent, s'activent, les rapports de genre, les rapports de classe, les rapports de racisation. Donc, comment s'assembler en réussissant à mettre au travail ces rapports sociaux, à les faire évoluer, etc., etc. Donc, des micro-politiques à développer à cet endroit-là. Des micro-politiques qui peuvent être parfois raides, qui peuvent être, par exemple, l'expérience d'une mobilisation sociale à Paris 8, où les étudiants racisés décident de se réunir en non mixte, prenant simplement acte que dans les assemblées générales, ne prenaient la parole que des Blancs, alors que le public de Paris 8 étudiants est très majoritairement un public racisé, voilà, et que c'était en majorité des hommes Blancs qui prenaient la parole, se rejouaient des dimensions symboliques entre les disciplines, donc issues de la philosophie, de la sociologie, etc. Et nous, nos publics en sciences de l'éducation, effectivement, ne s'exprimaient pas. Et donc là, on a des enjeux de micro-politique dans la manière de s'assembler, de faire groupe, qui amènent effectivement à des choix qu'on a connus antérieurement dans le mouvement féministe, hein, de non-mix, etc. Et vous avez en tête toutes les polémiques que ça peut créer, etc. Je peux vous assurer, quand on est à Paris 8, on nomme les choses. Et quand on vit à Saint-Denis, on nomme les choses. Voilà. Porter attention et considération à une ressource. Voilà. Ça, je crois vraiment en sociologie, peut-être sans doute d'autres. Hein, voilà. Bruno Latour a vraiment attiré notre attention sur le fait que, je ne sais pas comment le formuler après ton propos, faire l'humanité renvoie effectivement à qui nous sommes en tant qu'humains, mais renvoie à beaucoup de non-humains qui contribuent largement à notre humanisation ou à l'inverse. Voilà. Et toutes ces choses qui sont des techniques, qui sont des lieux, qui sont des dispositifs, qui sont, etc., etc., quelle place démocratique arriver à leur accorder La semence paysanne en tant que commun. La semence devient une ressource en termes de savoir. C'est-à-dire que la semence paysanne, par la pratique du paysan qui l'acclimate sur un terroir, sur une écologie, un écosystème, fait que progressivement, la semence intègre ses savoirs du sol, ses savoirs du climat, etc., etc. Et donc la semence, elle a quelque chose à dire du point de vue démocratique, du point de vue de ce qu'elle a capitalisé en termes de savoir. Il y a par exemple l'exemple du conservatoire de la tomate à l'Odève dans l'Hérault, où un paysan sur une période de 10-15 ans a réussi à faire en sorte que les graines de tomate s'acclimatent à la sécheresse sans recours massif à l'eau, à l'arrosage, voilà. Qui est quand même plutôt intéressant, simplement parce que les graines, les semences ont cette capacité à capitaliser du savoir qui s'ouvre. Et donc, comment arriver démocratiquement à prendre en compte l'ensemble de ces dimensions? Quand on travaille dans un quartier populaire, il y a des choses qu'on n'arrive plus à entendre. C'est-à-dire, quand on nous dit « ces lieux sont inhumains », moi, je peux pas l'entendre, simplement parce que des gens vivent dans ces lieux. Voilà. Donc, comment on arrive à porter attention? Donc, il y a une écologie de l'attention à retravailler par rapport à ces lieux, à ces espaces. Et puis, troisième aspect, qui est peut-être le plus difficile, mais qu'on peut traiter rapidement, qui est effectivement la manière d'administrer, hein, et d'organiser cette ressource et de le faire ensemble. Et là, on revient sur les antériorités en termes d'autogestion, en termes de forme de démocratie radicale, etc. Et là aussi, il y a beaucoup à inventer. Nous, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est la dimension de la mise en récit. La mise en récit nous a permis effectivement de faire venir une parole, voilà, à partir des expériences qui avaient été travaillées, voilà, et de créer les conditions, voilà, d'un échange de paroles peut-être plus conséquent. Voilà. Donc là aussi. Il me reste 5 minutes, je peux.
Oui, pour quelques questions.
Oui, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si sur. Le commun, donc ce que je vais nommer le commun au travail, qui va renvoyer peut-être à trois registres. Il y a un acte d'imagination. Donc, je vais le dire pour m'en sortir honorablement à la manière de Castoriadis, hein, Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Alors, pour moi, un acte d'imagination, c'est-à-dire c'est vraiment une hypothèse, c'est cette capacité que nous avons lorsque nous assemblons à créer. Les Castoriadis le formule bien. Et je pense qu'il y a à chaque fois cette dimension. C'est ce que je mets au cœur des pratiques d'expérimentation. L'expérimentation, c'est d'adresser une hypothèse au réel, et si, et d'être obligé par ce et si, se trouver obligé par cette hypothèse qui a été introduite. Et si on se rapportait d'une manière égalitaire entre hommes et femmes à l'occasion d'un échange, d'une discussion. Et ce et si va nous obliger, du point de vue des dispositions à prendre, pour qu'effectivement ça devienne effectif. Donc l'hypothèse ne nous détermine pas, ne nous conditionne pas, l'hypothèse nous oblige. D'une certaine manière, on est tenu de la tenir, hein, un peu dans la durée. Donc, premier aspect de mise en expérience, en expérimentation. Un travail d'institution. Donc ça, c'est une formulation de Georges Lapassade. Travail d'institution dans la dimension créative de l'institution, c'est-à-dire de créer des formes, de créer des dispositifs, de créer des agencements, etc. Voilà, moi je suis, alors, ça fait de culture, hein, ça peut vraiment ne pas convenir. Moi je suis quelqu'un qui équipe beaucoup, qui gère des formes, qui gère des dispositifs, qui essaie de prendre des dispositions. Voilà. Je ne suis pas un spontanéiste, même si je crois à l'émergence. Ouais. Et puis, la dimension constituante du commun. Donc le commun s'institue, il y a un travail d'institution qui me paraît une part vraiment très créative, très intéressante sur le plan politique. Et puis il y a la dimension constituante du commun, c'est-à-dire à l'échelle d'un territoire, il y a multiplicité de communs, multiplicité d'expériences de communs. Comment ces communs interagissent? Qu'est-ce que ces communs trament entre eux à l'échelle d'un territoire? C'est-à-dire qu'est-ce que ça vient constituer? C'est-à-dire une intention constitutionnelle. Alors pas une constitution de l'ordre de l'État-nation, mais de l'ordre d'une constitution démocratique d'un territoire. Et là, on a un effet d'échelle qui me semble tout à fait important. Alors moi, que je caractérise par un amusement sur les mots, je pense qu'il peut avoir du sens, non pas des effets de montée en généralité trop rapide, parce que ça va vite et on perd de la substance, mais de tenter des formes de montée en latéralité et de faire en sorte que les expériences entre elles s'interpellent, que les communs entre eux s'interpellent, se mettent à l'épreuve réciproquement à l'échelle d'un territoire. Ces différents communs qui émergent sur un territoire, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Est-ce qu'ils s'éprouvent réciproquement? Ou est-ce qu'on a perdu l'hypothèse politique et où on a tout à coup des communs qui sont simplement des espaces de repli, des petits isolats, des petits, etc. Et où on a de fait des formes de privatisation nouvelles. Voilà. Donc, cet aspect qui me paraît peut-être le plus difficile à imaginer aujourd'hui, le risque, je terminerai là-dessus, puis après je viendrai quand même rapidement sur la dimension de l'appréciation. Le risque, me semble-t-il, ça serait aujourd'hui, avec l'imaginaire de l'institution publique, d'essayer de penser et de mettre en œuvre le commun. C'est-à-dire effectivement de ne pas bouger dans notre mode imaginaire, voilà, pour travailler une hypothèse nouvelle. C'est-à-dire tout à coup de vouloir faire émerger sur la base du commun l'équivalent de ce qui a émergé du point de vue de la construction de l'État, du point de vue des politiques publiques. Voilà. Et là, c'est difficile. Et oui, ouais, participation, etc., etc. Et y compris dans... Moi, par exemple, il y a quelque chose sur lequel je suis assez confiant, c'est-à-dire l'effet de démultiplication. Voilà. C'est-à-dire une transformation par la démultiplication et par, progressivement, une mise à l'épreuve, voilà, de manière latérale, de manière transversale, etc. Et je pense que ça vient construire. Voilà. Mais c'est une représentation, une image qui peut ne pas être partagé, qui peut être difficile. C'est-à-dire, comment ça peut se faire, mais ça ne va pas tenir, etc. etc. Voilà. Et donc, sur le commun, il me semble que c'est tellement critique qu'on risque effectivement de s'en saisir dans un imaginaire, dans un langage, dans des représentations antérieures. Une espèce de discordance, voilà, qui peut se jouer. Sur la question de l'appréciation, puisque la question m'est adressée, c'est la pire des choses qu'on puisse me faire, de me considérer comme spécialiste du commun, voilà, je ne sais pas comment apprécier. Moi, je repars sur les trois épreuves démocratiques. Voilà. C'est-à-dire que quand on me sollicite sur une expérience, je dis ben, qu'est-ce qui est éprouvé du point de vue de l'assemblement des personnes, de votre vie de groupe? Qu'est-ce qui est éprouvé écologiquement, hein, dans ce rapport à la ressource? Quelles considérations effectives, hein? Comment ce lieu est considéré? Comment ce quartier prend place avec nous, parmi nous, etc. Et puis, comment s'organisent, s'administrent les choses, quel est le, etc., etc. C'est-à-dire de faire revenir les trois épreuves démocratiques pour pouvoir réfléchir avec des personnes sur les processus qui sont en cours. Et mon appréciation, c'est surtout pas de dire tiens, là, il y a du commun, là, il n'y en a pas. c'est simplement de dire par rapport à ce qui fait en jeu du commun, voilà. Peut-être que vous êtes un petit peu court sur cette épreuve qui est la manière dont vous vous assemblez. Voilà. J'ai assisté à votre réunion. Je constate que ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole. Là, il y a peut-être un souci du point de vue de la construction du commun, par exemple. Ou vous parlez de commun, vous êtes dans un lieu. Qu'est-ce que vous avez à dire de ce bâtiment? Comment ce bâtiment il fait histoire dans la ville? Quelle attention vous lui portez? Et est-ce que ce bâtiment fait entendre quelque chose? Est-ce que vous avez développé une qualité d'écoute et de regard qui fait qu'à un moment donné, ce bâtiment se met à parler? Moi, l'exemple que je donne toujours, comme ça, une passion pour les arbres, il suffit que je sois attentif à un arbre en ville et cet arbre, il me parle. Et Dieu sait si souvent, il renvoie de la souffrance. Voilà. On les installe, mais alors dans des conditions qui sont absolument terribles. Et moi, démocratiquement, ça me paraît absolument essentiel, en termes écologiques, d'être capable d'entendre, de voir ce qu'une chose nous pardonnerait, un arbre, etc., réussit à nous dire. Et donc, lorsque je suis au travail, en termes d'appréciation avec les collectifs, c'est pas du tout de trancher. C'est d'inviter, voilà, une sorte d'éducation du regard, de l'attention, de voir comment on arrive à avancer sur l'ensemble de ces questions. Et tout à l'heure, sur l'exemple de la cité Berry, j'ai montré combien, en tant que chercheur, on était tout à fait en deçà des questions qui sont posées, donc je vous garderai bien de donner des leçons en la matière. Merci.
Merci Pascal, c'était vif, belles expériences. Est-ce que j'ai l'impression que cette approche, elle exige une sorte de déboîtement radical, radical, je crois que c'est ce que j'ai relevé comme terme dans ton ouvrage d'ailleurs. Hein. Pour toi, ça veut dire militer, développer des stratégies hein, qui permettent de construire et d'organiser une autonomie de vie. Tu faisais référence à Castoriadis. Est-ce que ça veut dire que le commun fait davantage appel pour toi à des pratiques normatives et à des rapports de confiance qu'à des règles, les règles dont Ostrom nous parle? Moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est se délester un peu de la règle pour réinvestir un petit peu davantage du côté de la norme nouvelle qui va faire avancer.
Oui, moi je te rejoins. C'est-à-dire que pour le faire vivre, si on considère qu'il y a vraiment trois registres, qui sont les registres de pouvoir au sens de Foucault, hein, celui de la règle, qui est une énonciation et qui vient délimiter, hein, une règle vient constituer un périmètre, il y a un dedans dehors, hein, même si c'est des jeux de conformité ou compatibilité, l'effet de norme que moi je caractériserais comme des effets d'éclairage réciproque, d'ajustement, comme ça, d'arrangement raisonnable, etc. Moi, ce que je vis dans la cité Péri, si je dois attendre que le deal disparaisse, on ne fait rien dans cette cité. Et le deal est indispensable à la survie économique du quartier. Et je suis absolument convaincu, mais jamais je ne poserai la question, que parmi les femmes du collectif qui font des choses absolument remarquables, il y a nécessairement de la ressource qui arrive dans le deal pour que il y a une survie économique. Et donc il y a à ces endroits-là des formes d'arrangement raisonnables dans une quotidienneté. Voilà. Et le centre social, dans une dimension normative, est en train progressivement de trouver ces arrangements, ces effets de distance, de proximité, qui viennent comment, etc. etc. Voilà. Et puis le troisième registre qui est celui de l'implication. Ce rapport à soi qui émerge, bon, Foucault le montre bien de manière majeure, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure je revenais sur la dimension des biographies langagières, par exemple. Là. Ce rapport à soi pour, voilà, travailler son rapport aux autres, son rapport à la société, etc. Et aussi un registre, je crois, qui est intéressant, qui arrive dans le paysage des politiques publiques à travers l'implication, mais qui arrive et est immédiatement empêché. C'est ça qui est troublant. Ma thèse portait là-dessus en 95, 96, et le propos était celui-là. C'est-à-dire l'implication telle qu'elle était sollicitée par la politique publique était, ouais, une invitation immédiatement empêchée. Je crois que sur le terrain du commun, on peut avoir là un possible qui peut se développer, voilà, de ce rapport à soi qui vient rejoindre le rapport aux autres, le rapport à la société, etc. Et donc, moins de règles. Et Dieu sait si à l'université, on n'y parvient pas.
Est-ce qu'il y a on aimerait bien aussi voilà, qu'il y ait un échange. Ah, très bien, c'est bien. Que voilà, un de nos étudiants, d'ailleurs on ne les a pas présentés, ils font partie de la formation communication des organisations à l'unité Bordeaux-Montagne, et donc ils organisent avec nous cette journée. Donc Sylvia.
Merci pour l'organisation. Merci pour votre intervention. J'ai une question liée à la thématique un peu de cette journée aussi qui est sur les communs éditoriaux et votre rapport à la capitalisation. Vous avez dit les semences intègrent les savoirs du sol. Comment ces expériences, elles travaillent à cette capitalisation des savoirs collectifs pluriels?
On tente et on n'est pas bon, donc chercheur. Donc, classiquement, en recherche action, et tu sais, j'ai du respect pour la recherche action, et je m'inscris dans ce paysage historique. On est en coopération jusqu'au moment de l'écriture, par exemple. Au moment d'écriture, il y a à nouveau une prise statutaire, il y a une prise de spécialité, qui peut être une prise de pouvoir. Vous êtes chercheur, qui à un moment donné, etc. Sur l'histoire dans cette métropole du Nord, on a tenté de deux ou trois choses, hein, voilà, en termes d'éditorialisation de la recherche, je parle pour cette partie-là, après, peut-être plus largement. Hein. Un, qui a été de créer un fanzine. Hein. C'est l'initiative du jeune chercheur Louis Starisky, avec qui je bosse, et lui a eu cette excellente intuition de créer un fanzine. Ce qui était amusant, c'est que les jeunes du quartier avec qui on bosse, de manière très étroite, ne savaient pas ce qu'était un fanzine. D'ailleurs, c'est l'imaginaire, punk, rock, etc. Ils sont sur leurs imaginaires. Voilà, ils sont découverts et plutôt réussis. Et donc, le fanzine permet de faire cohabiter une diversité d'écriture. Donc, l'écriture, dans son acception que je connais, avec le stylo, les écritures par le dessin, par l'image, etc., etc. Et ce qui permet à l'écriture de recherche de se créer une écologie. Voilà, une écriture de recherche parmi les autres. À la fois l'air n'est affecté, sans doute qu'on bouge un peu dans notre écriture, et surtout la lecture en est transformée. Ça, on a discuté avec eux. C'est-à-dire, spontanément, ils nous disent on ne serait pas à lui dire ton texte. Il se trouve que le texte est dans le fanzine. Je suis allé, et puis j'en suis venu à ton texte. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut une écologie, voilà, de la lecture qui, à un moment donné. Et moi, je suis quelqu'un qui ne renonce pas à l'écriture de la recherche. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour voilà. Mais en repenser sur l'écologie. On n'a pas proposé un rapport, mais des fascicules, des brochures. Et des brochures imprimées qu'on donne de la main à la main. Voilà. Et à nouveau, on découvre des expériences d'écriture. Voilà. Donc je pense à l'un d'entre eux, dont je suis proche, un jeune. Je vais le dire comme ça, il faut vraiment que vous le receviez, il n'y a pas de disqualification, etc. Quand j'ai vu son écriture, son écriture est très fragile, dans sa graphie. Voilà. Et ce jeune, il a des brochures de recherche. Voilà. Et c'est les mêmes, moi, que je diffuse à l'université. Hein, c'est pas... voilà. Et à un moment donné, il me dit, j'ai beaucoup écouté quand vous parliez de vos résultats de recherche, etc., etc. Et puis, je suis allé voir, voilà. Et donc, son expérience de lecture est une expérience par l'écoute et devenue comme ça sur les textes. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on tente. Alors, le fanzine, ça a été étonnant, c'est-à-dire qu'il a été lu partout. Et c'est le délégué au préfet, là, au quartier populaire, qui vient nous dire, votre fanzine est lu partout, il a des soutiens, il a aussi beaucoup d'hostilité. Et dans le fanzine, par exemple, on a mis les fiches projets qui sont budgétées dans le cadre de la négociation avec la rue. Elles ont été mises avec le budget, par exemple, dans le fanzine. Donc ça, c'est la part qui nous revient. Voilà. Après, moi, je pense que la dimension de biographisation... Moi, ce que j'ai proposé pour un des quartiers, c'est qu'il y ait une biographie de l'expérience du logement. Que les personnes puissent parler de cette expérience de l'habiter à travers leur trajectoire de vie, y compris dans des effets d'imaginaire. Mes grands-parents, etc., etc., pour que le moment de la rénovation, qui est brutal, qui est une rupture difficile, vienne au moins s'inscrire dans une richesse, voilà, d'expériences biographiques, de l'habité, du logement, etc., etc. Donc voilà un peu comment on travaille. Voilà, je ne sais pas que dire beaucoup plus. Et une dernière chose, parce que je l'ai à cœur, c'est-à-dire que par rapport à l'expérience qu'on mène dans cette métropole du Nord, le risque, à un moment donné, c'est que notre parole de chercheur, plus d'autres paroles institutionnelles qui s'intéressent à l'expérience, fait qu'à un moment donné, l'expérience existe plus à l'université ou dans les institutions que dans les quartiers eux-mêmes. Ça, c'est aussi un risque de la force de nos paroles, ce que je fais aujourd'hui. Et nous, il faut qu'on soit attentif à ce que la parole, le récit, l'écriture qu'on a se rapporte toujours à une expérience qui est effective. C'est-à-dire que quand on vient dans les quartiers, on voit quand même ce qu'on est en train de raconter, quoi. Et le décrochage peut opérer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'emballement de l'énonciation qui fait qu'à un moment donné, cette énonciation recouvre pas tant que ça de réalité. Quoi. Et là, il y a vraiment un risque. J'ai été loin.
Peut-être d'autres. Et après, c'est là qu'il faut qu'on tienne le mais
moi, j'ai été très intéressé par tout ce que tu as dit sur le récit, la biographisation, etc. Ça pose une véritable question méthodologique, justement, de la reprise, de la manière de mettre en mots, voilà. Et aussi de ce lien que nous avons avec ce que certains appellent un terrain, mais c'est pas un terrain, c'est des gens. Donc c'est nous aussi, on est des gens. Bon, alors comment est-ce qu'on fait un peu ensemble, comment est-ce qu'on arrive à mettre en commun un rapport à la connaissance qui vienne dire ce qui est en jeu. Il y a des gens qui me semblent très insupportables, c'est-à-dire ils s'autorisent en quelque sorte des entretiens qu'ils ont menés, comme ils disent, pour réétayer pour la énième fois la théorie préparée pour passer comme un blindé sur le terrain et s'auto-vérifier. C'est redoutable. On est d'accord avec ça, j'imagine. Et ça veut bien dire qu'aussi, dans l'entretien, il y a tout ce qui ne se dit pas. Alors, c'est aussi très dangereux de venir interpréter le non-dit en disant « il l'a pas dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Qu'est-ce que vous en savez ?» Bon. Mais il y a aussi à prendre en compte quelque chose qui est peut-être de l'indicible, ça ne peut pas s'exprimer, quelque chose que la personne ne peut pas verbaliser, il y a des tas de choses. Donc c'est pas uniquement l'expression immédiate, objectivée, « il l'a dit, vous voyez bien, quand même je n'invente pas », qui peut étayer le propos. Il y a aussi donc ce travail de la description que j'évoquais tout à l'heure, qui est la mise en situation, qui est la mise en contexte, qui est l'explicitation de ce qui se joue à travers des personnes qui ne sont pas uniquement donc des auteurs, me semble-t-il, ou des acteurs qui sont peut-être des activistes, des gens qui mettent en action, en quelque sorte, les situations. Je trouve, excusez-moi, mais je voulais rebondir là-dessus, parce que ça me paraît vraiment très très important, cette dimension qui a été soulignée là, dans cet exposé.
Bonjour. Alors, j'aurais une question qui s'adresse un peu à tout le monde. Autour du commun, on a entendu parler de l'individu, du collectif, on a entendu parler du politique, on a entendu parler des chercheurs. Et j'aimerais savoir si vous avez un avis de la place du privé dans cet espace-là, c'est-à-dire l'entreprise privée. Est-ce que le commun peut exister? Est-ce qu'aujourd'hui il existe dans sa notion idéologique? Alors voilà, je me questionne là-dessus.
J'y viens en situation. Voilà. Moi, je porte beaucoup d'intérêt et de considération à la notion de coopération. Voilà. Et la mesure où la plupart d'entre nous travaillons, voilà, dans des entreprises ou dans des institutions publiques, mais qui sont des lieux de travail, je ne peux pas penser que ces lieux-là restent indifférents et nous soient indifférents politiquement. Je reste dans cette idée que sur le lieu de travail, dans l'expérience de travail, les enjeux de coopération sont majeurs. Nos collègues en psychodynamique du travail montrent bien qu'une des sources de la violence actuelle, une forme de souffrance, c'est effectivement l'affaiblissement des communautés de travail, l'affaiblissement des normes de travail, etc., etc. Donc je pense qu'il faut réengager quelque chose de l'ordre du commun, de l'ordre d'une communauté de travail, de l'ordre d'une coopération au sein des entreprises et au sein des entreprises publiques, etc. Alors, comment, par exemple, cet acteur-là, historique, qui est le syndicalisme, peut arriver à bouger, du point de vue, lui aussi, de sa conception, cette conception à laquelle je suis attaché, c'est-à-dire le moment négatif, qui est encore le moment positif, au moment de l'opposition, qui est aussi celui de la création, de la production. Comment un acteur comme le syndicalisme peut être producteur de coopération, peut prendre le risque aussi de vouloir transformer significativement l'organisation et les conditions de travail. Et pas seulement sur un mode relativement défensif, ou pas simplement par le registre, même s'il est essentiel, de la législation du travail, quoi. Substantiellement de transformer. Donc il me semble que c'est une des pistes possibles.